Tout d'abord, je tenais à remercier chaleureusement Henri Laurence, Dima Al-Sadiya et le Collège de France de nous accueillir ici. Remercier également chaleureusement l'IREMO pour avoir co-organisé ce beau colloque, et notamment Juliette Canivet et Anne Millet qui ont réussi quand même à faire une coordination qui n'était pas simple. Alors, cette table ronde aurait pu se passer de manière à avoir des tours de parole bien distincts, mais nous avons préféré, avec les intervenants, une autre configuration, où je poserai des questions parfois à toutes et tous, et parfois à quelqu'un en particulier. C'est, je pense, un bon moyen de faire circuler la parole. Bien entendu, j'encourage les intervenants, si vous le souhaitez, à réagir aux propos des uns et des autres. Nous aurons, à la fin de la table ronde, un temps pour des questions du public pour nos intervenants. Le lieu du Collège de France est d'autant plus symbolique que c'est le lieu où la recherche est en train de se faire, et la bande dessinée est un domaine relativement récent pour l'histoire. Hein. L'histoire et les historiens mettent toujours un peu de temps à s'intéresser aux nouveaux médiums, cinéma, photographie, télévision, et aujourd'hui, web et bande dessinée. Donc, pour introduire rapidement cette table ronde sur la représentation des questions politiques dans la bande dessinée, je vais commencer par citer une phrase qui en dit beaucoup. La plus sérieuse critique que l'on ait pu porter à l'encontre de Palestine est qu'il ne restitue qu'un seul point de vue du conflit israélo-palestinien. C'est une description du livre qui me paraît exacte, mais cela ne me gêne pas. Ma conviction était et demeure que le point de vue du gouvernement israélien est parfaitement représenté dans les médias américains dominants, et que n'importe quelle personne élue à un poste important aux États-Unis se fait fort de le claironner lourdement. Palestine était une tentative de montrer un peu de la réalité de la Palestine sous occupation lors de la première intifada. C'est une citation de Joe Sacco, dans l'introduction de l'intégrale de Palestine, hein, son ouvrage, un de ses ouvrages majeurs, paru au milieu des années 1990. Montrer, donc. Joe Sacco voulait montrer, faire apparaître, faire voir. L'engagement politique, en fait, de Joe Sacco ne se place pas seulement dans le fait de donner la parole aux Palestiniens, mais bel et bien dans la volonté de leur donner des images, une représentation, des visages, des histoires, de la chair, en fait. Et plus tard, dans Gaza 1956, en enquêtant littéralement, comme pourrait le faire un historien, l'auteur rend aux Palestiniens une mémoire et donne épaisseur, visibilité et présence, en fait, à un peuple que l'on a progressivement construit comme un peuple presque invisible, en fait. Il était difficile de commencer une table ronde sur politique, monde arabe, Méditerranée, bande dessinée, sans évoquer cette figure hein, dont on parle en fait depuis ce matin, que peut représenter Joe Sacco pour la bande dessinée de reportage, et je pense hein, pour la bande dessinée en général. En fait, si l'on considère la bande dessinée francophone qui traite du monde arabe, le traitement des questions politiques où l'engagement politique dans la bande dessinée ne se cantonne pas au conflit israélo-palestinien, bien que celui-ci s'y prête particulièrement bien. C'est à une Méditerranée des conflits à laquelle les auteurs de la bande dessinée contemporaine vont systématiquement, ou en tout cas souvent, faire référence en fait, dans un processus de médiatisation et de transmission de récits singuliers qui tissent à leur manière la complexité des enjeux collectifs. Des auteurs de bande dessinée et des autrices se saisissant des conflits méditerranéens en Algérie, en Israël, Palestine, au Liban ou lors des affrontements pendant les révolutions arabes. Pour les relire, en fait, en fonction de questions parfois identitaires qui leur sont propres et qui résonnent avec leur communauté d'appartenance. Une Méditerranée des conflits, mais également une Méditerranée des représentations et des mémoires. Ces mémoires méditerranéennes, à travers la bande dessinée, sont plurielles et multiples. Laboratoire de la mémoire, le monde méditerranéen, en fait, offre une espèce de mosaïque mémorielle hein, que les ouvrages de bande dessinée peuvent représenter. Le cas de l'Algérie coloniale et de la guerre d'Algérie est particulièrement frappant, on l'a vu ce matin avec Jacques Ferrandez. Appelé, pied noir, algériens et leurs descendants témoignent d'une mémoire multiple, se superposant ou se juxtaposant à travers certains ouvrages. Et si Philippe Joutard fait également référence à la nostalgie d'une mémoire partagée des Méditerranéens, cette dernière est mouvante et en évolution permanente. Dans ce sens, on peut considérer la bande dessinée comme un art de la mémoire. Pour Isabelle Delorme, qui a travaillé sur les récits mémoriels historiques dans la bande dessinée, les ouvrages témoignent essentiellement du surgissement de mémoire afin d'accomplir une mission de transmission, voire de réparation de l'histoire familiale. La bande dessinée est ici un moyen de reconstituer des épisodes de vie détruits par l'histoire ou certains dénis, sinon certains oublis. Chris Ware, que Benoît Peters connaît bien, auteur américain hors norme, pour plusieurs raisons, hein, par les formats de ses livres, comme par sa recherche inlassable hein, de la représentation des petits riens de la vie quotidienne, hein, va même plus loin. Il dit « La bande dessinée est l'art de la mémoire. Il n'y a pas un dessin qui ne soit lié d'une façon ou d'une autre à la mémoire de leurs auteurs. La bande dessinée fonctionne un peu de la même façon que nos rêves. Il s'agit d'une recomposition de nos souvenirs sous une nouvelle forme. Se met en branle alors le même processus de filtrage que celui qui vient séparer le vécu et la façon dont on se souvient d'un moment. » Alors, quand la bande dessinée francophone contemporaine va représenter le monde arabe, elle va faire référence, on l'a vu, hein, à la guerre d'Algérie, à la guerre du Liban, aux guerres du Liban, aux révolutions arabes, aux conflits israélo-palestiniens, aux migrations et aux relations entre ce monde arabe, justement, et l'Europe ou les États-Unis. Parfois sur des événements précis, sur le temps court, parfois sur un temps beaucoup plus long, comme dans l'ouvrage de Jean-Pierre Filu de David B., dont nous allons parler dans un instant. La bande dessinée va traiter à partir des années 1980, en fait, tout un pan de l'histoire méditerranéenne contemporaine et du monde arabe, que l'historien va pouvoir à son tour décortiquer et étudier. Si la Méditerranée ou le monde arabe deviennent des lieux communs, voire une accumulation de lieux communs, la bande dessinée contemporaine, notamment celle qui émerge de manière fulgurante à partir du début des années 1990, la bande dessinée autobiographique et la bande dessinée documentaire, va donner de nouvelles manières de voir l'histoire. Les historiens vont pouvoir s'intéresser aux questions liées aux images, à la représentation, mais également à tout le paratexte dont la bande dessinée va progressivement se doter, plans, cartes, chronologie, reproduction d'archives, photographies, bibliographies ou sources. Concernant plus spécifiquement, et je m'arrêterai là, les questions politiques, nous pouvons, avant de commencer, faire un très rapide tour de ces dernières concernant la bande dessinée et le monde arabe. Nous savons que la guerre d'Algérie est un événement traité en profondeur par la bande dessinée à partir du début des années 80, mais en fait surtout à la fin de cette décennie, notamment avec Jacques Ferrandez ou avec Farid Boudjellal. Jacques Ferrandez qui va distiller de manière progressive hein, des éléments biographiques au Carnet d'Orient. La guerre d'Algérie va être traitée d'abord par la fiction et progressivement par la bande dessinée de témoignages. Nous savons aussi qu'il y a une résurgence mémorielle, notamment de la mémoire des pieds noirs, à partir de 2012-2013, hein, pour les 50 ans de la fin du conflit. Et l'on voit apparaître une masse d'ouvrages à partir de cette date-là, en bande dessinée. Les guerres du Liban vont également être traitées par la bande dessinée, portées par le dynamisme hein, de la bande dessinée arabe, par les collectifs comme Samandal et par certains auteurs libanais, comme Zaina Abirachet, que l'on verra tout à l'heure, Mazen Kerbaj, ou encore Barak Rima, que l'on verra également tout à l'heure. Le conflit israélo-palestinien peut être étudié, entre autres, par le prisme de l'engagement politique de ses auteurs, des auteurs et des autrices, pas seulement Josaco, mais aussi Maximilien Leroy, Rouhani, Philippe Squarzoni, ou encore Leila Abdelrazak. On parlait tout à l'heure des auteurs et des autrices palestiniens. Leila Abdelrazak est une rare autrice palestinienne à être accessible en fait au lectorat francophone. Enfin, auteurs et autrices vont aussi dessiner les conflits au présent, notamment les révolutions arabes. Pour parler avec moi de politique et monde arabe dans la bande dessinée, sont à cette table trois intervenants. Tout d'abord, À ma droite, David B., membre fondateur de l'association Maison d'édition indépendante, qui a révolutionné quand même la bande dessinée. Pardon ? Donc, qui a révolutionné la bande dessinée, que ce soit par son format ou par les thématiques que celle-ci va développer. Nous pensons bien évidemment ici à l'autobiographie, qui est un mouvement toujours très important dans la bande dessinée contemporaine. Et surtout, David B., nous le verrons, c'est un trait, un dessin, qui illustre d'ailleurs l'affiche du colloque. Un dessin qui a eu et qui a toujours, je pense, une influence majeure sur des dessinateurs et des dessinatrices d'aujourd'hui. Avec nous également, à ma droite, Jean-Pierre Filliu, historien, professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po Paris. Parmi ses très nombreux ouvrages sur le monde arabe, Jean-Pierre Filliu fait partie de ces historiens devenus scénaristes de bande dessinée, comme entre autres Benjamin Stora aussi, où il traite en fait le monde arabe, nous le verrons, sous le prisme, je crois, de la lutte et de l'émancipation, notamment avec Le Printemps des Arabes présent devant nous, ou un autre de ses ouvrages qui s'appelle La Dame de Damas. Enfin, à ma gauche, Nadia Naclé, autrice et dessinatrice et réalisatrice, qui nous parlera ici des Oiseaux ne se retournent pas, paru chez Delcourt il y a 2 ans, je crois, et qui a obtenu depuis de nombreux prix. On peut souligner également que Nadia Naclé travaille sur d'autres médiums, et notamment le spectacle vivant ou l'animation, mais ça, je pense qu'on va pouvoir, aussi en parler tout à l'heure. Pour commencer, une question assez générale pour toutes et tous, en fait, pour commencer cette table ronde, et qui, en fait, moi, ce que j'aurais voulu savoir, en fait, en quoi, pour vous, la bande dessinée est un moyen de dire, d'expliciter, ou au contraire, en fait, de raconter en creux les conflits ou la situation politique du monde arabe. Qu'est-ce qui en fait, pour vous, en fait, sa spécificité ? Peut-être commencer par David ou Jean-Pierre, enfin comme vous voulez.
Alors, moi en fait, j'ai été frappé quand j'étais petit, enfin je suis né pendant la guerre d'Algérie, dont j'entendais pas parler en fait, c'est que j'ai toujours été passionné d'histoire, même gamin. Et je me suis rendu compte que, quand je regardais les cartes dans mon livre d'histoire, il y avait tout un tas de pays dont on ne parlait pas. Et moi, j'aurais bien aimé que, pendant les cours, on me parle de ces pays-là, justement des pays arabes, des pays musulmans, de l'Orient, de l'Extrême-Orient, de l'Asie centrale. Et c'est pour ça que le premier livre d'histoire que je me suis acheté avec mon argent de poche, c'était « L'Empire des steppes » de René Grousset, parce que j'étais passionné par ces choses-là. Et je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui écrit sur des choses qu'on ne m'a pas apprises à l'école. Et la guerre d'Algérie, on n'en parlait pas non plus. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je me suis rendu compte que j'étais né pendant une guerre, mon pays était en guerre. Et même si on appelait ça les événements à l'époque, et j'en avais jamais entendu parler. Mon père était de la génération qui aurait pu aller faire la guerre d'Algérie, mais il l'a pas faite. Donc voilà, il y avait, pour moi, le monde arabe, ça a commencé comme ça. C'était une espèce d'absence, de néant. Et en fait, l'idée de faire le livre qui s'est appelé ensuite « Les meilleurs ennemis », ça m'est venu au moment de la Seconde Guerre du Golfe, où je me suis dit « bon, faut faire un truc là-dessus, quoi. C'est trop gros, c'est trop énorme ce qui est en train de se passer ». Et justement, avec mon goût pour l'histoire, je voyais sortir plein de livres là-dessus. Et je me suis dit « il faudrait faire un livre qui soit différent de ceux qu'on voit soit de livres de journalistes ou d'historiens qui parlent de l'Irak, du terrorisme. De... » Et je me suis dit, au fond, je n'ai jamais vu un livre qui raconte l'histoire des relations entre les États-Unis et les pays musulmans en général. Comment est-ce que ça a commencé ? Et c'est comme ça que je suis parti là-dessus. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était une tâche absolument colossale. Et grâce à l'intermédiaire de Jacques Ferrandès, qui se trouve être dans la salle, qui m'a présenté Jean-Pierre Filiou, je me suis dit, tiens, ben voilà un historien qui connaît le sujet, qui parle arabe, qui a vécu dans quelques pays du Moyen-Orient. Et je vais lui refiler le bébé, il va m'écrire l'histoire, et comme ça, j'aurai plus qu'à dessiner. En gros, c'est parti un peu comme ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question.
Oui, mais en partie, Jean-Pierre,
c'est,
peut-être.
C'est parti d'un intérêt vraiment général qui s'est... que l'actualité, disons, a précisé à un moment comme ça.
Oui, alors moi je veux joindre d'abord mes remerciements à ceux de Sébastien Laurence pour tous les organisateurs, avec une attention toute particulière pour Henri Laurence, qui nous accueille ici, et Dima Sajdeya qui a tellement bien contribué à l'organisation avec d'autres. Alors j'apprécie aussi que dans le programme on nous mette avec un « et » entre deux, on n'a pas une virgule entre nos deux noms, et c'est assez bien parce que comme vous allez peut-être voir, on fonctionne en tandem de manière répétée et méthodique. Et ce que vient d'évoquer David, effectivement, la médiation de Jacques Ferrandès au rendez-vous de l'histoire de Blois, parce que tout ça, c'est quand même fait au rendez-vous de l'histoire, c'est important. Les rendez-vous de l'histoire, grâce à Pascal Horry, qui a été pionnier en la matière, ont très tôt institué un prix de la bande dessinée historique. Et il se trouve qu'en 2008... David l'a obtenu pour Par les chemins noirs, alors que moi j'avais le grand prix pour l'Apocalypse dans l'islam, donc le fruit de mon habilitation à diriger des recherches. Donc il y avait aussi ce côté faste, si j'ose dire. Et donc après, il y a eu ce travail qui a été mené entre nous, sur lequel David s'exprimerait beaucoup mieux que moi. Fondamentalement pour moi, c'était la réalisation d'un rêve. Enfin, j'étais quand même, grâce à un des auteurs que je respecte le plus et que j'admire le plus, en collaboration avec un des auteurs que je respecte le plus et que j'admire le plus. Voilà, donc à partir de ce moment-là, bon, il faut profiter du moment. D'ailleurs, on a profité, c'est pour ça qu'on a étalé la publication des trois tomes sur de longues années, parce qu'on ne voulait surtout pas que ça s'arrête. Mais je voulais revenir sur Joe Sacco, parce que dans toute la BD historique, il y a maintenant des maîtres, mais sur le Moyen-Orient, il y a vraiment avant et après Joe Sacco. Et Joe Sacco, qu'est-ce qu'il amène? Alors, évidemment, il a été l'objet de toutes les campagnes que l'on sait, de dénigrement, parce qu'il était partial, et sa réponse, elle est parfaite. Elle est de dire, attendez, moi, mon travail, c'est d'être du côté de ces gens-là. Mais il va au-delà de ça. Il le fait parfaitement en Palestine. Mais Gaza 1956, non seulement je le mets dans la bibliographie de mes livres, comme un livre d'histoire, pas comme un livre d'illustration, comme un livre d'histoire. Je le recommande à mes étudiants dans mon cours sur la question palestinienne, parce que c'est un document d'histoire, c'est une recherche historique, parce qu'il n'y a pas seulement le fait que dans Gaza 1956, on a le travail historique le plus abouti sur deux massacres, l'un d'un peu d'une centaine de morts, l'autre de 200 et quelques morts, qui n'ont pas vraiment suscité l'intérêt des nations en 1956. Henri Laurence a rappelé dans la question de Palestine que, en proportion, l'occupation israélienne de la bande de Gaza pendant 4 mois, de novembre 1956 à mars 1957, est la plus sanglante pour la population palestinienne. Je dis bien en proportion. On a à peu près 1 million de morts, sauf qu'à l'époque, il y avait à peu près 300 000 habitants de la bande de Gaza, alors que les guerres, on a évoqué Plomb durci, 2014, etc. Là, on est avec des populations beaucoup plus importantes, même si les bilans sont plus lourds. Donc, on a un traumatisme profond qui n'avait jamais été verbalisé. Mais qu'est-ce que fait Joe Sacco? Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'évidemment, il donne la parole aux témoins, aux victimes, aux rescapés. Mais il utilise, pour recueillir cette parole, la méthodologie historique qui est que nous ne pouvons pas, en tant qu'historiens, accorder une confiance absolue aux témoignages oraux. Les témoignages oraux ne sont pas à prendre pour vérité d'évangile, si je puis dire, ce qui n'est pas très laïque comme comparaison. Mais c'est-à-dire qu'il faut toujours les mettre en perspective. Et il montre dans Gaza 1956 que beaucoup des témoignages qui lui sont faits de très bonne foi sont erronés.
Oui, sont faux.
Sont faux. Mmh. Sont faux en termes de lieu, en termes de nombre, en termes de circonstances, etc. Et moi, ça m'a été très utile dans ma propre histoire de Gaza, donc quand j'ai écrit l'histoire de Gaza. Hein, parce qu'à Gaza, il n'y a pas d'archives, pour toutes les raisons que vous imaginez, donc on doit vraiment dépendre de l'histoire orale beaucoup plus qu'ailleurs. Hein. Alors je disais ça parce que, voilà, Joe Sacco, il a fait un travail d'histoire. Alors il se trouve que c'est un extraordinaire artiste. Hein, et l'engagement que certains lui ont tant reproché, que d'autres ont légitimement valorisé, ça n'a pas été qu'avec les Palestiniens. En Bosnie, il fait ça. Avec les Indiens du Canada, il fait ça. Excusez-moi, avec les peuples d'origine du Canada, il fait ça. Hein, il fait ça dans différentes enquêtes. Donc c'est une méthode. Et c'est une méthode de reportage, mais qui, à mon sens, ressort de la déontologie de l'historien. Et ça, c'est très important. Et il n'y a franchement pas énormément d'auteurs qui peuvent rivaliser avec Joe Sacco là-dessus, en tout cas avec Gaza 1956.
Alors, peut-être donner la parole à Nadia. Qu'est-ce qui, pour vous, en fait, dans la bande dessinée que vous avez écrite, Les oiseaux ne se retournent pas, comment la bande dessinée permet de raconter ce monde arabe, justement ?
Tout d'abord, merci à tous les organisateurs d'être ici. Je suis enchantée. Pour moi, en tout cas, la particularité de la bande dessinée, c'est vraiment la grande liberté qu'elle offre, en fait, pour raconter le vécu, mais aussi le réel à travers les conflits, mais aussi et surtout les révoltes du monde arabe. Et je pense que, notamment dans Les oiseaux ne se retournent pas, j'ai essayé en tout cas de m'inspirer du monde arabe pour parler de politique, mais avant tout aussi et surtout de poésie, en fait, de parler de cette poésie du monde arabe. Et pour moi, la bande dessinée permet justement, vraiment notamment par l'intermédiaire de la symbolique du dessin, permet d'interpréter le réel, de le métamorphoser même, pour finalement mieux s'en rapprocher. Donc je dirais que c'est un moyen finalement d'élargir l'horizon du réel. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers Les oiseaux ne se retournent pas. Vous voulez que je...
Non, c'est si tu en as fait plus.
C'est vrai qu'on est... D'ailleurs, il n'y a pas... Après, je crois que c'est là. Donc la couverture des meilleurs ennemis. La couverture des oiseaux ne se retourne pas. Voilà, une première planche.
Jean-Pierre Filu, c'est bon
là. Oui, okay. C'est bon.
Jean-Pierre Filu. Alors, le public connaît vos nombreux ouvrages sur le monde arabe, sur les révolutions arabes, également sur l'Algérie ou la bande de Gaza. Mais Les meilleurs ennemis, en fait, a la particularité de brosser vraiment une histoire sur le temps long des relations entre le monde occidental et le monde arabe. Et finalement, la question que je voulais vous poser, c'était en quoi justement la bande dessinée permet de raconter cela, en fait, sur un temps si long.
Alors, effectivement, hein, c'était un défi de méthode. Hein. Donc moi, je suis co-auteur, parce que de toute façon... La matière historique que je livrais à David, après, il l'a retravaillée pour la mettre en forme, la mettre en perspective. Et c'est évidemment le cas de cette introduction, hein, dont il avait l'initiative, hein, vu qu'il s'agissait, alors après à moi de répondre à ces demandes, hein, il avait cette idée de si je peux le dire, hein, si je peux trahir nos secrets, hein, de prendre Gilgamesh, mais sauf que voilà, on découvrira peu à peu que tout ce que dit Gilgamesh et tout ce que dit son complice, en fait, correspond à des citations de George W. Bush et de Donald Rumsfeld dans la préparation de l'invasion de l'Irak. Hein, et que donc, de même que Gilgamesh est une tragédie absolue, l'invasion de l'Irak en 2003 va être une tragédie absolue. Tu voulais commenter
Si tu es d'accord.
Oui, vas-y.
Et oui, j'avais eu cette idée. Alors, c'est une idée qui a été contestée par certains historiens d'introduire le livre comme ça. On nous a dit, ah, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire une comparaison entre le passé et le présent comme ça. Ça ne se fait pas. Bon, bref, moi, j'aimais bien ça. Et puis, d'autre part, ça correspondait aussi au livre. C'est-à-dire que Gilgamesh, c'est le... L'histoire de Gilgamesh, c'est le plus ancien livre qu'on ait de l'humanité, la plus ancienne fiction. Enfin, fiction, je ne sais pas. Peut-être que les gens qui l'ont écrit pensaient que ce n'était pas une fiction, eux ne le voyaient pas comme une fiction. Mais... Et précisément, il a été écrit en Irak il y a des milliers d'années. Et ça me semblait important de montrer ça, justement, que ça venait justement du Moyen-Orient, cette littérature aussi, qui, en plus, l'histoire de Gilgamesh a influencé, on en trouve des traces dans la Bible, on en trouve des traces dans la mythologie grecque, donc ça a eu vraiment un rayonnement énorme. Et pour moi, ce point de départ était important. Et effectivement, là où Jean-Pierre m'a aidé, ça a été de trouver toutes les... Dans l'histoire de Gilgamesh, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y avait ce moment où il va voler des cèdres au Liban pour construire son palais avec son ami Enkidu, et les dieux lui disent « ne fais pas ça, n'y va pas, ça va finir en catastrophe ». Et je trouvais que c'était on disait déjà à l'époque, il y a des milliers d'années, ce qui s'est passé autour de la guerre du Golfe.
Et puis il y avait eu, est-ce que tu l'as choisi comme planche, le parallèle entre la stèle des vautours et après, donc voilà, donc on appuie là, voilà, on gère sur la tête, voilà, c'était que le parallèle entre la stèle des vautours, hein, qui est au Louvre, hein, qu'on peut voir très facilement, hein, qui est quand même un monument glorifiant les sacrifices humains, et ces pyramides de corps d'Abu Ghraib en 2014, hein, qui ont sans doute beaucoup plus contribué que toutes les théories du complot à faire que le djihadisme s'ancre en Irak, vu le scandale que ça a été de voir ces hommes réduits à l'état de bêtes par l'occupant américain, qui en plus se met en scène. Hein, excusez-moi, ce n'était pas 2014, c'était 2004. Hein, donc, il y avait ce parallèle. Alors, effectivement, là on va assez loin, hein, dans la longue durée. Hein, et donc, après, ce qu'il fallait, c'est pour ça que c'est une introduction, c'est que on revienne sur notre objet qui était déjà vaste, et donc on débute en 1783. Et ça, c'est très important de débuter en 1783, parce que qu'est-ce que nous bassine la propagande américaine ? Ah, nous sommes un pays jeune, on n'est pas comme vous. Vous savez quand même 2 siècles et plus que vous occupez une partie du monde, que vous en êtes ressorti et tout. Ben, nous, on commence, donc du coup, on fait des petites erreurs par-ci, par-là, voilà. Voilà. Bon. Mais c'est complètement faux. Les Américains interviennent en Libye dès 1801. La première guerre des États-Unis indépendants se fait dans un pays musulman, arabe et méditerranéen. Alors évidemment, c'est occulté de l'histoire américaine. Hein, c'est occulté, et ce n'est pas un complot, c'est occulté, c'est vraiment occulté. Ce n'est pas enseigné, on n'en parle pas. Hein, les seuls qui en parlent, c'est les Marines. Parce que les Marines, dont l'acte fondateur est le débarquement sur les côtes de Libye, hein, dans leur chant « From the Palace of Moctezuma to the shores of Tripoli ». Évidemment qu'ils le savent, eux, qu'ils ont débarqué au début du XIXe siècle en Libye, ils le savent très bien. C'est un acte fondateur, il y a même des films des années 50, Tripoli, etc. Bon. Mais c'est occulté. Pourquoi ? Parce que dans le grand récit américain, donc vous voyez, hein, il n'y a pas que les puissances ex-coloniales qui ont des problèmes avec leur grand récit. Hein. Dans le grand récit américain, la première guerre, c'est 1812. C'est quand les méchants britanniques, qui nous ont concédé l'indépendance après une guerre glorieuse, où quand même Lafayette, il était sympa, mais il n'a pas fait grand-chose. C'est les Américains qui se sont libérés par eux-mêmes. Hein. Et donc, 1812, c'est l'incendie de Washington, hein, et c'est surtout la bannière étoilée dans le port de Baltimore. Donc, on passe directement de la guerre d'indépendance à 1812. Et on efface cet épisode quand même assez peu glorieux, hein, de 1801 à 1805, où pas moins de 4 expéditions ont été lancées par les États-Unis contre la régence de Tripoli, hein, dans le cadre d'une lutte contre la piraterie qu'on appelait barbaresque. Bon, sans entrer dans le détail. Mais ce qui est fascinant, hein, et c'est que, d'abord, cet épisode, c'est vraiment un archétype de la politique étrangère américaine. Vu qu'on a les deux successeurs de Washington à la présidence, hein, Adams et Jefferson, qui ont été tous les deux des négociateurs avec les Libyens, l'un comme ambassadeur à Paris, l'autre comme ambassadeur à Londres, et que d'ores et déjà, chacun des deux incarne ce qu'on appellerait aujourd'hui les faucons et les colombes. Hein ? Que disent les faucons ? Les faucons disent « il faut qu'on nous respecte par la force ». Que disent les colombes ? On peut négocier. Donc concrètement, ça voulait dire que les uns étaient prêts à payer le tribut qui était demandé par les Libyens et que les autres voulaient faire la guerre. Alors je signale, hein, que le Maroc est le deuxième pays à avoir établi des relations diplomatiques avec les États-Unis après la France. Ça veut dire concrètement que les Américains ont payé un tribut pour que les Marocains arrêtent leur piraterie à l'encontre des Américains. C'était ça qui a fondé les relations diplomatiques. Même chose en Tunisie. Sauf qu'une fois qu'ils avaient fait les relations diplomatiques avec le Maroc et la Tunisie, il n'y avait plus assez d'argent pour payer et les Algériens et les Libyens. Mais voilà, hein, il y avait 80 000 dollars qui avaient été alloués par le Congrès. Donc on a déjà, nous parlons de 1801. Le problème entre le président et le Congrès, qui ne veut pas qu'on fasse des opérations extérieures contre lui. L'opinion publique, parce qu'on va avoir des otages américains en Libye qui vont être pris dans le cadre de ces... la question des marines de guerre. Un tiers du budget fédéral est englouti dans cette opération libyenne. Un tiers, vous imaginez, c'est juste fou. Hein, et puis... Sur place, qu'est-ce qu'on a ? On a évidemment une opération qui est une opération une politique de la canonnière classique, c'est-à-dire que les États-Unis se comportent vraiment comme la puissance coloniale la plus traditionnelle, hein, comme vont le faire les Anglais en Chine et les Français en Algérie. Sauf que, voilà, donc faut pas qu'on... Mais le plus intéressant de tout ça, c'est que comme ça marche pas, on bombarde Tripoli, on fait un blocus autour de Tripoli. Les Américains inventent en 1805 le regime change. Ils disent ah, non, on ne fait pas ça pour le tribut, on ne fait pas. Non. Tout ça, non. On fait ça parce que le bey de Tripoli, ce n'est pas le bon bey. Le bon bey de Tripoli, c'est son frère, qu'on a dans la poche et qu'on va installer au pouvoir. Ce n'est pas du tout sur cette base-là que les Français vont intervenir en Algérie. Les Français vont intervenir, ce sera cash. Non, les Américains vont inventer le regime change. Et donc, on va faire toute une opération à partir de l'Égypte, avec des mercenaires, avec des tribus, avec tout ça, et avec le malheureux héritier du trône. Hein, et là, le parallèle avec 2003 est incroyable, parce qu'ils rentrent, les marins débarquent, donc deviennent les Marines, vu qu'ils sont descendus de leur bateau, et la première ville qu'ils prennent, Derna, en Cyrénaïque, eh ben, ils mettent leur drapeau, qui n'est pas encore la bannière étoilée, ils mettent leur drapeau, ils ne mettent pas le drapeau de l'héritier. Ils disent qu'on va remplacer, mais en fait, c'est une occupation coloniale. Donc, voilà, et je finis juste, excusez-moi, j'étais un peu long, mais parce que ce chapitre de David... Moi, je l'ai montré à Bagdad, je l'ai montré au Kurdistan, je l'ai montré à Alexandrie, je l'ai montré à Khartoum, et je l'ai même tout récemment montré à Abidjan. Parce que, évidemment, les Arabes ne connaissent pas cette histoire-là, les Américains ne connaissent pas cette histoire-là, les Africains ne savent pas que la première intervention des Américains sur le territoire africain, c'était il y a plus de 2 siècles. Hein ? Et donc, par la bande dessinée, Il est évident que le public soit scolaire, universitaire, militant, etc., que cette histoire, voilà, je vous l'ai racontée, j'ai essayé de la faire courte, bon, mais sous la plume de David, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, parce qu'en plus, c'est des histoires de pirates, c'est merveilleux, oui. On attaque, il y a du sabre, mais... proum-boum, voilà. C'est formidable. En plus, on ne s'ennuie pas. Dans le premier volume, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une fable antique, une histoire de pirates, une histoire d'espionnage et un carnet de gravure orientaliste. C'est merveilleux.
Justement, avant de revenir rapidement à Nadia, juste, est-ce que c'était commencé par le récit de Gilgamesh, presque ? Est-ce que commencer par un mythe, c'était aussi un moyen de... La question s'adresse à vous deux, mais est-ce que c'était aussi un moyen de montrer que les meilleurs ennemis allaient être presque une déconstruction de l'histoire ou de discours médiatiques officiels ou, est-ce qu'il y avait cet objectif-là aussi, que ce soit dans le scénario ou dans le dessin ?
Oui, à l'époque, on ne parlait pas encore de déconstruction. Mais moi, je voulais faire un livre, vraiment un livre d'histoire. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, je crois, sous cette forme-là, en bande dessinée. C'est-à-dire faire un livre d'histoire. Quand on a créé l'association, on s'était dit justement, on va faire des livres sur des sujets qui ne sont jamais abordés par la bande dessinée. C'est-à-dire la bande dessinée, c'est toujours de la fiction jusqu'à présent. Il y avait eu des tentatives, bien sûr, de gens qui commençaient à publier leur journal en bande dessinée ou de faire des choses un peu autobiographiques. Ça existait déjà, mais sur un mode vraiment personnel et anecdotique. Et moi, je m'étais dit, justement, il faudrait faire... Alors, on s'était dit, on peut faire de la poésie en bande dessinée, du récit de voyage en bande dessinée, avant que ce soit la mode de toutes ces choses-là. Et moi, je m'étais dit, pourquoi pas faire de l'histoire, justement, en bande dessinée aussi. Et là, je me suis dit, alors, il y avait déjà des livres d'histoire en bande dessinée, mais c'était toujours des choses avec des... L'histoire était toujours un peu romancée, avec des dialogues inventés. Là, je me suis dit, on va vraiment prendre les faits et respecter les dialogues, c'est-à-dire que tous les dialogues qui sont dans le livre sont vrais. Ça, c'est le travail qu'a fait Jean-Pierre. Et
je précise, c'est-à-dire que dans un livre d'histoire, il y aurait une note en bas de page avec marqué ta ta ta.
Ouais.
Voilà. Donc chaque fois que
avec la citation,
on aurait pu le sourcer.
Ouais. Et donc on a voulu respecter ça, c'est pour ça que quand on parle du passé, c'est-à-dire cette époque-là du 19e siècle, des histoires de pirates et tout ça, on a très peu de dialogues effectivement, de compte-rendu, parce qu'il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas tout ça. Après évidemment on a pu trouver tous les dialogues qu'on voulait, et c'est pour ça qu'on a pu faire cette histoire où on met dans la bouche de Gilgamesh et Enkidu des phrases de George Bush et de Rumsfeld. Enfin, y avait vraiment ce souci-là, oui. Et en même temps, dans le dessin, de ne pas avoir un dessin réaliste, parce que souvent, les bandes dessinées historiques que je lisais, moi, quand j'étais petit, c'était un dessin très réaliste, très classique, comme ça. C'est d'interpréter la réalité dans le dessin. C'est-à-dire, des fois, j'ai des cases qui sont réalistes, et d'autres fois, des choses qui sont totalement interprétées, fantasmées, où je cherche plutôt à donner une idée de du fait historique.
Avec les métaphores graphiques.
Oui, avec des métaphores graphiques, bien entendu. C'est là où on retombe sur ce que disait Topfer, sur le langage qui était dessiné et le dessin qui devenait un langage. C'est tout à fait évident.
Merci. Je reviens vers Nadia Naclir rapidement. Je le disais en introduction, vous êtes une autrice qui multiplie en fait les supports artistiques. Et merci. Sur votre site, d'ailleurs, on peut en voir des images, que ce soit sur le spectacle vivant ou même les liens que vous faites entre bande dessinée et animation, en fait. Moi, j'aurais voulu savoir, tout ça pour raconter des histoires, moi, j'aurais voulu savoir, en fait, en quoi, justement, ces travaux ou votre écriture permettent, en fait, de décrire le monde arabe d'aujourd'hui, en fait.
Alors, j'aurais pas forcément la prétention de dire que mes travaux décrivent pas forcément le monde arabe d'aujourd'hui. En tout cas, ils s'y intéressent, ça c'est certain. Mais en fait, la multiplication des supports, notamment pour les oiseaux ne se retournent pas. Donc ça, c'est une des planches du roman graphique. M'a permis en fait de raconter l'histoire avec trois angles différents, sachant que c'est une histoire qui nous raconte l'exil d'une enfant qui fuit un pays en guerre et qui, sur sa route, rencontre un ancien soldat, un déserteur qui est aussi joueur de oud. Et l'histoire raconte l'amitié de cet enfant et du soldat qui, peu à peu, vont apprendre à se reconstruire. Donc, pour ce projet, en tout cas, c'est vrai que la bande dessinée m'a permis d'avoir vraiment une vision intimiste et m'a permis, en tout cas, d'exprimer vraiment le point de vue de l'enfant, où on rentre vraiment dans ses pensées. On rentre aussi dans les pensées du soldat. Le spectacle vivant m'a permis de faire un concert, finalement, puisqu'il est entre spectacle et concert, et de mettre en avant la musique, le oud, puisque donc il y a deux personnages principaux dans cette histoire, à la fois l'enfant et le soldat musicien. Et donc c'était important pour moi de donner à entendre cette musique. Et le film d'animation, qui est le troisième volet de ce projet, est actuellement en cours de production et va donner plus une alternance de point de vue entre le soldat et l'enfant. Donc c'est vraiment trois formes différentes qui se répondent avec ce dénominateur commun qui est à la fois le texte, le dessin et un engagement poétique pour parler de situations difficiles, pour dénoncer la barbarie par le dessin, par l'humanisme, par la poésie.
Oui, en fait, oui. Comme disait Jacques Ferrandez ce matin, la bande dessinée ne fait pas de son. Donc effectivement, oui. ça permet de compléter vos images. J'aimerais qu'on revienne sur les personnages très forts des oiseaux ne se retournent pas, que ce soit la jeune fille ou le soldat joueur de oud. Moi, il me semble que la bande dessinée, on en parlait rapidement ce matin, moi, il me semble que la bande dessinée revient progressivement en fait aux personnages, aux anonymes, pour faire une histoire des acteurs, pour presque faire en fait une histoire par le bas, à hauteur d'hommes et de femmes. Donc comment vous avez toutes et tous envisagé en fait la création et l'évolution de vos personnages pour raconter l'histoire? Jean-Pierre Filu et David B pour Les meilleurs ennemis, mais aussi je voudrais qu'on parle pour Jean-Pierre Filu du Printemps des Arabes, ou même de La Dame de Damas, où vraiment les anonymes sont vraiment mis en avant pour l'événement des révolutions arabes. Les deux ouvrages sont marqués par des personnages anonymes très forts, mais donc également Nadia Naclet, en fait, dans Les oiseaux ne se retournent pas, où l'on croise de nombreux destins tragiques, touchés que ce soit par le conflit ou par la migration, qui est entraînée par le conflit. Peut-être Nadia, dont je suis sur les...
Oui, alors... donc je vais vous parler tout d'abord du personnage principal en fait de cette histoire. Donc Amel, donc qui est une enfant de 12 ans forcée à fuir un pays en guerre. Le pays est volontairement non cité en fait dans l'album, puisque en fait j'avais envie vraiment de renforcer la symbolique de la guerre, de l'exil, sans forcément parler de la notion de frontière. Donc c'est vraiment la particularité aussi de cet album. Et pour construire le personnage d'Amel, en fait, j'ai eu vraiment besoin de me plonger dans un réel travail de recherche documentaire. J'ai commencé à écrire à l'histoire en 2016. Et donc, je suis allée dans plusieurs camps de réfugiés, en fait, que ce soit à Grande-Synthe, à Calais, ou encore dans un camp de réfugiés palestinien au Liban, pour rencontrer différents enfants. Donc, en fait, finalement, il y a vraiment eu un travail de récolte, finalement, au départ de témoignages qui m'ont profondément nourrie dans l'écriture du récit, parce que je voulais vraiment approcher une véracité pure, en tout cas au début, à l'origine de ce projet, quand je me suis plongée dans cette histoire sur le thème de l'exil et sur le thème des enfants réfugiés, qu'on appelle aussi mineurs non accompagnés ou mineurs isolés étrangers. Et finalement, je me suis détachée peu à peu de ce réel pur. J'ai eu vraiment besoin d'entrer en poésie pour raconter cette histoire, parce que j'avais avant tout envie de parler d'espérance, finalement, dans ce livre, au-delà du conflit politique, armé, au-delà des conflits religieux. J'avais vraiment envie de parler d'espoir. Et je me suis appuyée notamment alors sur le monde arabe, sur le monde persan aussi, puisque l'enfant va rentrer dans un monde imaginaire qui est le royaume des oiseaux et qui fait écho à la conférence des oiseaux de Farid Adinatar. Donc finalement, la bande dessinée alterne entre de l'imaginaire pur, de la poésie pure et des passages très réalistes documentés du réel. Je peux vous montrer aussi, je crois que c'est plus à la fin. Et j'avais aussi vraiment donné envie de donner une place importante au oud, à la musique, puisque c'est aussi l'histoire d'une enfant qui devient musicienne dans cette histoire. Donc je me suis à la fois inspirée du vécu des enfants réfugiés, mais je me suis aussi inspirée de mon histoire familiale pour écrire cette histoire, puisque mon père est né à Homs, a grandi au Liban et a fui la guerre du Liban. Donc c'est vrai qu'il y a une grande part de mon vécu familial où j'ai introduit finalement des éléments réels, même si je les transformais sous la forme d'une fiction. Et pour moi, c'est vrai que quand j'ai vu notamment les images de Homs bombardées, ça a été un réel choc, puisque je me suis dit que la ville natale de mon père, tout d'un coup, n'existait plus. Et je pense que ça a été aussi l'élément déclencheur dans l'écriture de cette histoire. Donc, à la fois l'actualité qui rejoignait finalement mon passé familial.
En fait, l'aspect poétique de la... On a dû sûrement vous le souligner, mais l'aspect poétique de l'ouvrage fait vraiment penser à cet ouvrage de Shontan. Oui. Là où vont nos pères, de Shontan, je crois qu'il a reçu le Grand Prix d'Angoulême, le Prix du meilleur album en Angoulême en 2008 ou en 2009, quelque chose comme ça. Et donc ça fait, les oiseaux ne se retournent pas, ça fait vraiment, souligne vraiment l'expérience universelle presque de la migration en fait.
Oui, en tout cas c'est vrai que j'avais envie de parler de l'exil dans son aspect universel, même si c'est vrai que quand on voit certaines images du roman graphique, qu'on voit par exemple la femme au foulard bleu en train de fuir, on peut tout de suite penser à l'Afghanistan actuellement. Je pense que c'est des sujets finalement qui au fil des années restent mais tristement d'actualité.
Le tout, c'est vraiment ce qui fait la particularité de l'album, le tout sans date et sans indication géographique. Donc.
Oui, complètement, parce que j'avais plus envie finalement de parler des personnages, de l'émotion des personnages, plus que d'un conflit en particulier. Donc finalement, la guerre en elle-même, peu importe la guerre, ça ne m'intéressait pas. Donc c'est vrai que ce n'était pas du tout une démarche historique, pour le coup. C'était vraiment plutôt parler à la fois de la douleur de l'exil et surtout de l'espoir de la reconstruction.
David Bay et Jean-Pierre Filhu, donc sur ces personnages, sur ces anonymes, que ce soit sur les meilleurs ennemis ou Jean-Pierre Filhu sur les deux autres ouvrages auxquels je faisais référence, sur Le Printemps des Arames et La Dame de Damas.
On rejoint ce que je disais un peu au début, où pour moi, quand j'étais petit, les Arabes, ils étaient invisibles. Puis, et en même temps, quand j'en voyais représentés dans les bandes dessinées, on peut montrer, une page avec les pirates, j'en ai vu passer une tout à l'heure. Et quand ils étaient dans la bande dessinée, si je me souviens comme ça, la première fois que j'ai vu représenter des Arabes, justement, c'était des pirates, c'était dans Barbe Rouge, la bande dessinée de Charlier et Hubinon, je crois, qui dessinait. Et à un moment, il y a eu une aventure avec des pirates barbaresques. Et moi, ce qui me frappait quand je lisais ce genre de bande dessinée, ou quand je lisais Hakim, ou Zembla, où il y a des personnages de noirs, quand Zembla, il va dans une tribu, tous les noirs, ils étaient pareils. Ils étaient habillés pareil, ils avaient tous le même bouclier, il y avait juste le chef qui se distinguait. Et dans la bande dessinée de Charlie Hubinon, c'était pareil, les barbaresques, ils étaient tous pareils. Ils avaient tous la même moustache, le même turban sur la tête, le même petit gilet, la grosse ceinture, le gros pantalon. Le chef, il avait juste une aigrette sur son turban pour montrer qu'il était un peu plus important que les autres. Et ça, je me disais, ça me choquait déjà. Je me disais, mais c'est pas vrai. C'est pas... Enfin, les Arabes, c'était une foule. Ou les Asiatiques, c'était une foule. C'est pareil, dans Bogdani, ils étaient caricaturaux. On parlait de la mise en couleur tout à l'heure. Les Bogdani et ses copains, les Américains, ils étaient représentés de façon réaliste. Les Coréens ou les Japonais, ils étaient jaune citron. Mais vraiment jaune citron, la couleur, c'était jaune citron. C'était des jaunes. Et je me disais, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Et ça m'énervait, je me souviens, ça m'énervait. Et je pense que mon goût de l'histoire et dessiner l'histoire, justement, de reconstituer des personnages, de leur donner un visage, de leur donner leur, ne serait-ce que leur costume, finalement, qui sont les emblèmes de leur civilisation, de là d'où ils viennent.
Et une expression.
Une expression, ça vient de là. Enfin, les personnages sont tous différents. C'est pas une foule anonyme, mais c'est cette espèce de stéréotype raciste. Oui, ils se ressemblent tous de toute façon. Enfin, c'est ça qu'il y avait, qu'on sentait. Et même si je veux pas jeter la pierre à ces dessinateurs et scénaristes, je pense pas qu'ils étaient racistes ou quoi, mais c'est vrai qu'ils transmettaient des stéréotypes qui venaient de plus loin, quoi. Et donc, j'ai vraiment cherché à leur donner une identification. Même si là, dans cette scène, justement, du combat des Marines américains avec les pirates, il y a un clin d'œil à la fameuse image de Tintin et le trésor de Rackham le Rouge, mais du combat des pirates, vous savez, où il y a le capitaine Haddock qui évoque le combat de son ancêtre. Je voulais faire une allusion un peu à ça. Mais l'autre scène est bien aussi, parce qu'elle fait allusion à la... voilà, celle-là qui était celle du grand remplacement dont on parlait tout à l'heure, où il y avait l'image du grand remplacement avec le capitaine Haddock dans son château de Moulinsart, qui a les Bédouins sont venus planter la tente dans le salon du capitaine Haddock. Et là, c'est une scène historique qui a réellement eu lieu. C'était pas le grand remplacement, mais quand le président des États-Unis a passé des accords avec le roi Mseoud, le roi Mseoud, il pouvait pas faire débarquer des Américains sur son territoire, c'était pas possible. Donc c'est les Américains qui ont accueilli la délégation saoudienne sur leur bateau. Et ça s'est réellement passé comme ça. C'est comme dans l'image de Tintin, ils ont installé leur tente sur le pont du bateau. Ils avaient amené toute une cargaison de moutons, parce qu'il était hors de question qu'ils mangent la nourriture des Américains. Et donc, ils égorgeaient les moutons sur le pont du bateau, ils préparaient leur plat. Et la seule chose qu'un des Saoudiens a voulu échanger avec les Américains, c'était le prince Faisal, le fils du roi, qui sera roi lui-même après, c'est qu'il avait entendu dire que les Américains avaient des films un peu... que les marins américains avaient des films un peu lestes sur le bateau, et il aurait voulu en voir un. Alors, ce qu'il prenait pour des films pornographiques, en fait, c'était des comédies musicales d'Esther Williams, avec les ballets nautiques où les filles étaient en maillot de bain. Et ça, pour lui, c'était le comble de la pornographie, évidemment. Donc voilà ce qu'on peut faire comme rencontre justement avec la bande dessinée et comment on peut faire des... Ça aussi, évidemment, c'était un clin d'œil à l'image de Tintin. Et comment on peut se renvoyer la balle d'un album à l'autre et d'une époque à l'autre. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant de faire ce genre de choses dans la bande dessinée, que la bande dessinée permet ça, justement.
Bien sûr. Jean-Pierre Fizu, sur les personnages, sur les anonymes, sur...
Oui. Alors, il se trouve que l'idée de la masse, de la massification, de la non-individualisation, elle est évidemment celle des puissances coloniales, mais elle est aussi celle, en tout cas, moi, c'est ma thèse centrale pour ceux qui me font l'honneur de me lire, du monde arabe contemporain, c'est-à-dire les indépendances ont été détournées au profit de dictatures qui traitent le peuple comme une masse indifférenciée, et donc le chef parle à la masse. Évidemment, la masse ne répond pas, sauf pour voter à 99% pour la reconduction du chef au pouvoir. Ça a commencé en Syrie en 1949, ça s'est poursuivi en Égypte, en Algérie, en Libye et ailleurs, et on voit que ça continue à faire florès, et que d'ailleurs, on a cette volonté... Dans le regard surplombant européen sur les sociétés arabes, il y a depuis 2011 une espèce de tentation permanente. Bon, on arrête tout ça. Il faudrait qu'il n'y ait qu'une tête qui dépasse, ce qui est exactement la même chose. C'est-à-dire, non, mais voilà, qu'on s'entende. Qui c'est le patron là-bas, quoi, voilà, avec qui on traite, et puis surtout pas Et donc face à ça, c'est évident que, alors avec Cyrie Pomès, hein, dans Le Printemps des Arabes, où ce sont des différents chapitres, chacun étant lié à un moment des soulèvements démocratiques et à un pays différent avec une carte au début. Ce sont toujours des anonymes, des gens qui n'ont pas fait, enfin des anonymes, ils ont tous un nom, excusez-moi, ils ont tous un nom, une identité, mais ils n'ont jamais été identifiés comme étant des chefs, des protagonistes importants. Or, ce sont eux qui ont fait les révolutions arabes. Il n'y a jamais eu, sauf dans la vision des complotistes déchaînés, et zémorisés de chambres opérationnelles qui a décidé qu'un jour ce serait la Syrie, un jour ce serait ça n'a jamais existé. Ça a toujours été à Homs, à Benghazi ou ailleurs, des mouvements en partie spontanés, hein, et en partie organisés, mais toujours organisés de manière horizontale. Donc l'enjeu, c'est comment on rencontre de l'horizontal, comment on, dans... Y compris dans un champ académique ou avec des médias ou avec une demande sociale qui demande du vertical. Hein, c'est qui le chef, c'est qui dans les innombrables débats auxquels j'ai participé sur la Syrie, régulièrement on me disait, mais c'est quoi leur programme? Et donc, ça voulait dire, bon, on va avoir un programme, on va regarder le programme des Syriens, on va dire, ah ben, c'est bien, c'est pas bien. Donc, c'est quoi le programme d'Assad? Ah ben, c'est bien, c'est pas bien. Puis, on va faire une synthèse entre les deux programmes. Voilà, les gens n'ont pas compris qu'Assad, pour 500 000, voilà, 500 000 morts, voilà. L'important, c'est qu'il reste. Il n'y a pas de programme. Hein, c'est la pulsion de vie. Donc, c'est pour ça que la seule fiction d'amour, il faut quand même le dire, La Dame de Damas, hein, Roméo et Juliette à Daraya, hein, c'est dans la Daraya, dans la banlieue de Damas qui a longtemps été assiégée. Hein. Voilà, pour faire que ces gens-là existent, ils aient cette épaisseur. Hein. Mais en même temps, ça n'empêche pas. Alors je pense qu'elle est plus loin, c'est ça. Donc voilà. Donc ça, c'est une collaboration ponctuelle, hein, que j'ai eue avec Ali Mahmoudi. Hein, pour justement le numéro spécial d'Araborama, qui est cette revue publiée par Le Seuil et l'Institut du Monde Arabe. Donc c'était le numéro 2 sur les révolutions arabes. Hein. Et donc on a eu deux pages sur le Hirak, et donc c'est la Casa del Muradia, hein, qui est l'hymne vraiment du Hirak. Et c'est toute une histoire, parce que c'est le football... c'est les clubs de football, et là aussi, hein, comme historien, moi, si j'ai compris deux trois choses à ce qui pouvait se passer dans le monde arabe, c'est parce que les clubs de football m'intéressent, les rappeurs m'intéressent, les graffeurs m'intéressent, hein, toute cette création un peu, sous les radars, hein, et ce qui se dit dans les stades m'intéresse, ce qui se chante dans les stades m'intéresse. Quand on peut y chanter, parce qu'il faut voir que c'est un des enjeux de tous les pouvoirs autoritaires dans le monde arabe, c'est accepter le public dans les stades et accepter qu'il puisse chanter. Et donc, il se trouve que les supporters d'un des clubs d'Alger avaient fait une chanson à partir de la Casa de Papel, la série
Netflix.
Netflix au succès planétaire, et l'avaient traduit la Casa del Muradia, donc c'est l'Élysée locale, la Muradia. Et les paroles sont incroyables. C'est-à-dire que quand vous écoutez les paroles, le premier mandat ceci, le deuxième mandat cela, le troisième mandat... Et cette chanson est antérieure au Hirak, est antérieure au cinquième mandat. Mais à partir du moment où Bouteflika, je crois qu'il ne savait même pas qu'il était candidat au cinquième mandat, hein, entre vous et moi, hein. Je ne livre aucun scoop. Hein, je veux dire. Donc il y a une bande de généraux, de gangsters, comme d'habitude, qui ont décidé, écoutez, pour que le business continue, pour qu'on continue à mettre le pays en coupe réglée, on va faire un cinquième mandat. Il est quand même parfait, Bouteflika. En plus, sa famille est totalement corrompue. Donc, si ce n'est pas lui qu'on tient, on va tenir sa famille. C'est génial, il faut que ça continue. Ils ont juste oublié les gens. Parce que pour eux, les gens, c'était le peuple, c'était la masse. C'était pas des individus qui pouvaient individuellement sentir que c'était une honte absolue, cette comédie. Et donc, ça donne ça. Hein, voilà. Alors, donc, il y a à la fois entre la masse des manifestants et les individus qui clament qu'ils ne veulent plus. Hein, vous avez la casquette, là, qui ne veulent plus de pouvoir militaire. Voilà. Ça, c'est eux qui l'ont inventé. Hein, je l'ai reproduit. C'est très parlant. Voilà. On ne veut plus de casquette, on ne veut plus de généraux, on ne veut plus ces gens-là. Hein. Donc, effectivement, il faut trouver la façon d'insérer ces destins individuels. Pas uniquement dans la grande histoire, pour moi actuellement dans le monde arabe, c'est ça l'histoire. Tous les. Je ne vais même pas dire leur nom, de tous ces dirigeants, présidents, généraux, émirs, c'est pas eux qui font l'histoire. C'est pas eux qui font l'histoire. Hein ? Donc ce qui est important, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte d'une façon ou d'une autre, sans non plus se faire d'illusions, comme faire Joe Sacco. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils sont dans la rue qu'ils ont forcément raison, c'est pas parce qu'ils sont dans la rue que ce qu'ils disent est forcément vrai, mais voilà, c'est ça qu'il faut remettre au centre de l'histoire, alors qu'on voit bien que dans le monde arabe aujourd'hui, s'il y a tellement de bêtises qui s'écrivent, c'est parce qu'il y a cette espèce de surplomb géopolitique qui nie la réalité des sociétés, qui nie la réalité des femmes et des hommes, et qui dit, au fond, ben voilà, la Chine ceci, l'Iran cela, l'Amérique... Non, c'est pas ça ce qui se passe, la preuve. Et la preuve aussi, excusez-moi, c'est que quand en Algérie, hein, il y a un mouvement populaire qui porte son équipe de foot, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations, et quand ça s'effondre, eh ben, ils se font éliminer en huitième de finale. Il n'y a pas de secret. Le football et la politique en Algérie, hein, depuis la guerre de libération, c'est totalement une histoire intime.
Et c'est vrai que donc la bande dessinée revient, hein, sur les bandes dessinées qui traitent des révolutions arabes ou des soulèvements arabes, la bande dessinée revient à ces figures anonymes, hein, que ce soit dans vos ouvrages ou même, je pense, à Zero Calcar et l'auteur italien, l'auteur romain qui est allé en Syrie, hein, qui donne visage aussi aux Kurdes. Pour finir, il nous reste pas beaucoup de temps parce que je voudrais quand même laisser du temps pour le public. Il me reste deux questions. Il me reste une question d'abord au dessinateur. Hein. Moi, j'aimerais que l'on termine sur l'omniprésence de la violence du conflit, hein, dans vos ouvrages, hein, et de la représentation de la violence. Je prends David Debé, par exemple, dès l'ascension du Homal, hein, où je crois qu'il y a dans l'ouvrage cette omniprésence, hein, de la violence de la maladie. En tout cas, c'est ma lecture personnelle. Ici, pour notre sujet, nous, on change d'échelle. Hein, c'est un point commun, hein, d'ailleurs, à vos travaux, je trouve, entre Nadia Naclet et vous, David. La violence des relations internationales pour les meilleurs ennemis et la violence du conflit, de la migration, pour l'ouvrage de Nadia Naclet. Comment rendre compte graphiquement de cette violence ? Peut-être Nadia ?
Oui. Du coup... du coup, pour Les oiseaux ne se retournent pas, alors là, ça se voit d'autant plus avec la projection. En fait, j'ai vraiment voulu mettre beaucoup de noir, finalement, dans cet album. J'avais vraiment besoin que le noir, un noir charbonneux, soit assez omniprésent pour décrire la violence, pour notamment faire jaillir la lumière ou les touches de couleur du noir. Et donc dans cette planche, en fait, on voit Bassem, donc l'ancien soldat qui déserte, et on voit qu'il est hanté par des soldats squelettes fantomatiques. En fait, il essaye de fuir ses traumatismes. Et je pense que la symbolique, en fait, de la mort, notamment, voilà, m'a aidée à parler de cette violence. Je vais revenir sur. Ouais. Et finalement, alors toujours pour montrer la violence, je pense que la main, oppressante, écrasante de la dictature, m'a aussi permis, en fait, tout l'aspect symbolique, finalement, dans la composition des planches, de représenter cette violence. J'aime beaucoup aussi accorder une place au hors-champ, c'est-à-dire que. La main, enfin le dictateur n'est jamais montré finalement, et la main seule je trouve, en tout cas, nous permet de renforcer la violence. Et j'ai aussi beaucoup joué finalement sur l'expression des personnages, l'expression des visages, comme on peut le voir dans cette planche. Et comme mon sujet parle notamment des mineurs isolés étrangers, c'est vrai que j'avais aussi beaucoup d'images en tête ou suite aux recherches que j'ai faites, des images liées à l'actualité, et je m'en suis servie aussi pour me les réapproprier et pour les réinterpréter, donc comme cette image avec voilà, qui peut faire écho à de nombreuses images vues et revues sur les réfugiés. Ou cette image-ci aussi, qui, en tout cas, quand je l'ai dessinée, au départ, je n'avais pas forcément pensé à ça, mais quand je l'ai dessinée, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à Aylan, le petit garçon syrien au t-shirt rouge, et je pense qu'elle évoque aussi cette référence et fait écho à notre actualité. Voilà, donc je pense que c'est ces différentes manières, finalement, qui me permettent de retranscrire la violence dans l'album.
Merci Nadia. David, peut-être ?
Oui, bah effectivement, dans l'ascension du Homal, la violence est présente. Juste pour situer les gens qui ne connaissent pas l'ascension du Homal, c'est un travail autobiographique où je raconte comment mon frère est tombé malade. Il est devenu épileptique à l'âge de 7 ans. Et il avait 3 crises par jour. Et une crise d'épilepsie, il avait des crises d'épilepsie très violentes qui pouvaient durer certaines très longtemps. Et moi, j'avais 5 ans quand il a eu sa première crise, et c'était des choses très impressionnantes pour moi. C'était très brutal de voir son frère tout d'un coup qui tombait, qui était secoué de convulsions comme ça, et ça pouvait durer des fois pendant plusieurs heures. Donc, oui, disons que toute mon enfance a été marquée par l'irruption du corps de mon frère qui était déformé par quelque chose qu'on n'expliquait pas. Et moi, je l'interprétais avec lui. On passait notre temps à dessiner des batailles, des choses comme ça. Et je me disais, c'est comme s'il y avait une bataille qui se déroulait à l'intérieur de lui. Il est en conflit avec lui-même, quoi. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et après, je me suis intéressé à l'histoire, au conflit et tout ça. Et les meilleurs ennemis en est plein, évidemment. Et je voulais montrer la... Bon, là, on voit une des pages, mais celle sur le 11 septembre. Et quand il y avait... c'est ce qui m'a posé le plus de difficultés. Je ne sais pas si j'ai résolu le problème, d'ailleurs. Quand je la revois, je me pose toujours des questions. C'était comment représenter le 11 septembre. Parce que les images, enfin les films qu'on a, les photos, sont tellement parlants.
Confort,
ouais.
Tellement iconique,
reproduire presque. En dessin une photo... Ça n'a pas de sens, essayer de l'interpréter. Enfin, j'ai passé mon temps à tourner autour. Et là, pour le coup, c'est les terroristes que j'ai fait de façon anonyme pour une séquence, enfin, où justement, on n'a pas de traces de ce qui s'est passé à l'intérieur des avions. On n'a aucune photo. C'est une séquence de cet épisode du 11 septembre où on sait ce qui s'est passé parce qu'on a retrouvé des boîtes noires, on a des échanges de boîtes noires. Mais c'est tout. On n'a aucune image de ça. Quand les avions tombent sur les tours, bon là, on a tout sous tous les angles et tout. Et là, on n'a rien tout d'un coup. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était aussi très difficile à représenter quand on n'avait rien. Alors, j'ai fait cette interprétation-là, je ne sais pas ce qu'elle vaut.
C'est surtout essayer de passer par-delà les représentations qui sont devenues presque iconiques ou presque... Enfin, tout le monde a ses images dans la tête... Et les unes,
oui,
les
c'est
médias
ça.
Reviennent
c'est donc
tous les anniversaires.
Échapper à ça, c'est difficile. Vouloir faire quelque chose de complètement différent, c'est difficile aussi. Mm. Enfin, mettre un texte, on raconte ça, puis dessiner des petites fleurs, des petits oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, je sais pas. J'ai beaucoup tourné ça dans ma tête, et je sais pas si je suis arrivé à faire ce que j'aurais réellement voulu faire. Mais c'est vrai que c'est faire une bande dessinée sur un événement comme ça, ça pose ce genre de problème. Faut trouver des solutions graphiques, et voilà. C'est dur. c'est du travail.
Merci à toutes et à tous. Je pense qu'on va devoir passer aux questions du public parce que je crois qu'il faut s'arrêter d'ici 20 minutes pour la pause.